Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour terminer cette semaine d'émission. Par les temps qui courent, écoute les artistes tous les soirs pendant une heure, ni plus ni moins. On est ravis de terminer la semaine avec Ariel Dombal.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouta, pépé, pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis 21.
Marie Richaud.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Figurez-vous le mont Olympe englouti, ou quelque chose de moins clair dans votre imaginaire. Figurez-vous un labo pseudo-clandestin rempli de bocaux de formol, tout ça dans un sous-marin nucléaire abritant des dieux dont le projet est clair, faire revivre l'androgyne, recréer l'être complet. Imaginez qu'ils élisent rapidement deux personnes pour le réaliser, une femme, Dolores Rivers, cinéaste, un homme, Nicolas Atlante. Vous êtes presque dans Alien Crystal Palace, où le désir est contrarié, contrariant, mais les attractions puissantes, menant les uns, les autres, à briser le cercueil des blessures et des répétitions. Bonsoir à vous, Ariel Dombal.
Oh, Marie, pleine de grâce, qui a fait une analyse formidable du film.
Alien Crystal Palace, c'est votre quatrième long métrage. C'est une épopée qui à la fois s'amuse de beaucoup de genres, mais qui aussi rend de manière, je crois, très profonde et amoureuse quelques hommages à des genres littéraires et cinématographiques. Mais puisqu'il sort dans quelques jours et qu'on sera encore en janvier, est-ce que vous avez des vœux pour cette année qui commence, Ariel Dombal ?
Des vœux
pour vous ou pour le monde,
oui,
comme vous voulez.
Enfin, bon, vous savez qu'au moment du passage du temps, comme ça, bon, je regarde toujours comme tout le monde, parce qu'il y a une unité comme ça de tous les êtres qui regardent vers le soleil ou les cieux pour faire leurs vœux. Et moi, c'est toujours une myriade de vœux, une constellation de vœux. Donc un seul serait très difficile à définir, mais en gros, oui. Peut-être quelque chose d'un point de vue climatique, planétaire, que l'on soit plus en harmonie à nouveau avec notre cosmos, comme disaient les Grecs. Qu'on soit non pas un Achille qui part toujours en guerre.
Je l'adore, vous savez, je l'adore.
Ah, mais j'adore Achille aussi. Mais parce que, oui, parce qu'il a d'abord le tendon d'Achille, donc cette faiblesse absolue, et qu'il est héroïque. Mais Ulysse arrive, après sa traversée, quand même à l'harmonie avec le tout. Et c'est ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est-à-dire de trouver sa place, de se dire, tiens, c'est là où je me sens bien, c'est ici où j'appartiens au vaste monde, c'est à cet endroit précis. Et donc, voilà mes vœux, c'est que les gens se sentent bien dans leur environnement, dans là où ils sont.
Vous nous souhaitez un très très long voyage et puis de rentrer chez soi.
Oui, quand même un très long voyage, parce qu'on le fait, quoi qu'il advienne, on le fait. Mais il faut toujours l'entreprendre aussi, parce que si on ne se laisse que porter par la rivière, les voyages sont moins intéressants. Quand on va à contre-courant et qu'on passe par des chemins qui bifurquent, c'est peut-être plus nourrissant, plus intéressant.
C'est une des façons que vous avez de faire du cinéma, et le reste d'ailleurs. Oui. Et pour commencer, on va voir comment on se lance dans un voyage en écoutant David Lynch.
Oui.
The idea tells us everything.
C'est l'idée qui nous dit tout.
When you get an idea,
quand vous avez l'idée,
it's like a movie screen or a TV going off in your brain.
C'est comme un écran de cinéma ou un écran de télévision qui tout d'un coup jaillit dans votre esprit.
Even if it's just a fragment
même
of the whole
si
thing,
si ça n'est qu'un fragment de l'idée générale
you
du film,
see an image,
vous la voyez cette image.
Sometimes hear a sound,
parfois vous entendez un son, vous voyez un personnage. Non seulement vous
know,
le voyez,
know the character,
mais
as you see
soudain vous le
him
connaissez,
her, you
lui
hear
ou elle.
The words
vous entendez les mots qu'elle va dire.
And the whole thing, you just write it down.
Il faut absolument l'écrire immédiatement.
And then you follow that and stay true to that.
Suivre cette idée.
Mostly,
et surtout,
picture
rester fidèle.
Comes first, shooting.
Les images viennent d'abord, en général,
and
avant le tournage. Puis,
you get the sounds
le son,
or the
les
music
sons, la musique,
to marry to that picture.
Épouse le
and
film
it's a process
que vous allez faire. C'est un processus
Action and reaction, you could say
d'action et de réaction, on pourrait dire que c'est de l'expérimentation finalement.
One time, boom, it marries.
Et tout d'un coup, paf, ça marche.
And this is what they call the
c'est ce qu'on appelle
the whole is greater than the sum of the parts.
La magie du processus, et ce qui est extraordinaire, cette révélation.
If it happens, it's
quand
very
ça
good.
Arrive, c'est merveilleux.
Bon, on sent qu'il y a quand même la modestie de David Lynch qui laisse entendre que parfois, ça n'arrive pas. Ariel Dombal, voilà. difficile de dater cette archive pour nous, mais en tout cas, facile de vous la faire entendre pour commencer cette conversation. Il y a plein de choses, peut-être l'idée qu'une idée apparaît, parfois et souvent sous la forme d'une image, il s'agit de lui être fidèle et de coller à elle avant que le film n'advienne. Comment ça s'est passé pour Christelle?
Oui, alors étrangement, moi, c'est pour ce film-ci, mais pour le précédent aussi, Opium, j'étais partie des stances de Cocteau, de la poésie de Cocteau que j'avais d'abord fait mettre en musique par Philippe Évenot. Et cette fois-ci, je suis partie de l'album que j'ai fait avec Nicolas Kerr et du corpus signifiant de l'album pour ce qui a été la matrice du film. Donc là, David Lynch dit « one image and then » et moi je dirais « sound towards image ». Là, nous sommes vraiment partis de la musique et d'une illustration de musique. Et puis petit à petit, l'idée d'architecturer, de mettre en image ce qui était dit secrètement dans la rivière Atlantique a pris corps. Et en réalité, c'est vrai, il dit quelque chose de tellement juste, c'est que nous rêvons, il y a comme une boîte noire, un nœud fondamental qui est là, une image. Et il faut arriver à traduire cette image et à ne pas trahir cette image. Et les choses se construisent comme ça. Et c'est tellement juste, tellement fin.
Comment est-ce qu'il faut avancer pour être certain ou certaine de ne pas la trahir, cette image? Quand on dit ça, on entend Ariel Dombal qui a un risque à cela, qui a un risque à s'arranger avec cette image première.
Bien sûr. Déjà, vous savez, dans les maintenant, il y a cette idée que le cinéma est devenu une industrie, un commerce aussi. Et donc, pour pouvoir être libre, et ça c'est quelque chose que m'a appris la Nouvelle Vague, enfin les écrits de la Nouvelle Vague, et Romère en particulier, c'est que si on veut faire des films libres, il faut les faire avec un maximum d'invention, un maximum d'amitié, ou d'affinité élective avec les êtres qui vont être dans le film, et un minimum d'argent, parce que l'argent se paye cher. Et donc,
se paye cher en liberté, vous voulez dire?
Oui, bien sûr, se paye cher en liberté. Et donc, moi, je n'ai pas voulu faire un gros film bien encadré où on me dise « Ah, mais il faut prendre tel acteur parce qu'il est bankable. Ah, mais il faut prendre... Mais non, mais... Ben, » Et où il y a comme ça des diktats de gens qui sortent des écoles diverses, souvent d'écoles de commerce, et qui vous dictent ce qu'il faut faire au cinéma. Heureusement, la France est encore un pays où le cinéma peut être libre. Et le cinéma tel que moi je l'aime et que j'aime en faire, c'est un cinéma qui est un septième art. Donc un carrefour des arts, et c'est là où il ne faut pas que la trahison opère. Et donc il faut se donner des moyens petits si on veut être très libre. Ça c'est la... Ce que je dis toujours aux cinéastes, n'attendez pas avec votre gros scénario 15 ans en allant taper aux portes qui se ferment et qui disent « bon, laissez ça » et puis on a le silence consternant, ça bat. Faites les choses avec les moyens que vous avez, mais faites-les.
Pour autant, Ariel Dombal, on entend que, ou en tout cas on voit que ce film est aussi le signe d'un parcours, est aussi le signe d'un temps qui est passé, et que vous êtes peut-être pas, vous n'avez peut-être pas passé 15 ans avec le scénario sous le bras, mais peut-être que vous avez passé autant de temps, voire plus, à y penser.
Ah oui, bien sûr, c'est un film qui a mis 4 ans, et en amont du tournage, qui lui a été extrêmement serré, très très peu de jours accordés, il fallait beaucoup de préparation, surtout que moi j'aime un cinéma très travaillé, très spectaculaire, et qui bigger than life, comme on dit, un cinéma qui frôle avec le fantastique, qui a quelque chose de réellement spectaculaire, et donc il faut beaucoup préparer et savoir ce qu'on va faire en post-prod et commencer à préparer les images en 3D, les effets spéciaux, tout ça en amont du tournage, bien sûr.
Dans ce film-là, vous interprétez une cinéaste, je le disais tout à l'heure, élue par les dieux pour reformer un être originel qui, à un moment donné, a été complet avec, avec son autre moitié. Et c'est une femme qui porte un nom qui rappelle une de vos autres vies. Pourquoi est-ce que vous vous amusez à faire comme ça, se relier une autre activité qui a été celle de la danse et du spectacle, Ariel Nombal?
Parce que, vous savez, on a, à un moment donné, on est soi, et puis il y a cette image de soi qui est là, qui est presque comme un double de vous, qui est très écrasant, parfois, qui vient avec la popularité. Et il ne faut pas que cette image-là écrase tout. Et donc, dans ce film-ci, il y a vraiment une mise en abîme de moi, Ariel, qui filme, non pas Ariel, mais qui filme un personnage, qui est Dolores Sugar Rose, qui est un personnage que j'ai déjà, qui a été composé quand j'ai fait mon album Amor à mort, où j'avais fait un EPK sur moi, mon histoire. Et j'ai dit, je ne veux pas je veux une histoire fictive. Et on avait créé ce personnage qui est un peu moi, mais pas moi, qui est Dolores Sugar Rose. Et puis après, je l'ai reprise quand j'ai dansé au Crazy Horse. Et c'est l'idée d'avoir de la distance avec les personnages qu'on joue.
Est-ce que ça veut dire aussi, puisque vous disiez que le cinéma est au carrefour des arts, le 7e, qu'il est un lieu merveilleux pour vous, pour vous inventer des vies, pour vous inventer aussi un être au monde, Ariel Nombal?
Oui, moi je ne pourrais pas vivre sans le cinéma. Quand je lis la littérature ou les récits ou même la peinture, avant l'invention du cinéma, je me dis, mon Dieu, comment est-ce que ces gens faisaient sans le cinéma? Moi, j'aime tellement l'image, j'aime tellement le cinéma et j'en vois beaucoup et j'aime en faire. Et donc, voilà, je me dis que c'est quelque chose qui est une grâce de vivre dans cette époque où le cinéma est là. Maintenant, il est un tout petit peu moribond, enfin pas moribond, il est encore là, mais il prend d'autres formes. D'abord, on le voit sur des écrans, et on en est même à un point qui va influencer l'écriture du cinéma même, puisque mon ingénieur du son me dit « Ah oui, mais voilà, là, les chuchotements, ça risque de pas passer sur les tablettes et les smartphones. » Je dis « Quoi ?» Eh oui, parce que là aussi, altération du son dans tous nos moyens de propagation, et dans tous nos médiums, et donc ça... J'ai pas voulu entendre ça.
Et en fait, vous faites de ce film un film non seulement sonore, mais presque un film musical. Et on retrouve le lien avec la rivière Atlantique, Ariel Nombal. Tout à l'heure, on entendait David Lynch dire « Le son vient épouser l'image, d'une certaine manière. » Est-ce qu'on peut dire que, partant de la musique que vous avez faite avec Nicolas Kerr, c'est l'image qui est venue épouser le son?
On peut dire ça, oui. Parce que c'est vraiment né de cette très grande émotion sonore. Du timbre de voix de Nicolas Kerr, de ce rocker destroy, de ce rocker punk qui est toujours dans l'ivresse, et de cet éternel retour à l'ivresse et donc à marcher le long de la falaise, voilà, mélangé à ma propre voix, qui est plus dans un timbre qui vient du classique, du bel canto, des airs sacrés. Et voilà, c'est né de cette rencontre-là des timbres. Et le film est parti de la rivière Atlantique. Et voilà, Lynch disait, on a une image. Très vite, l'image a été là, liée, intrinsèquement liée au son.
Mais vous disiez tout à l'heure qu'il s'agissait de filmer ou de faire un film à partir de ce qui était dit entre les lignes de la rivière Atlantique et non pas exactement des textes des chansons. Alors si on essaye d'en parler de ce disque-là un tout petit peu, avant d'aller plus avant dans le film, Ariel Nombal, qu'est-ce qui se disait ou qu'est-ce qui s'entendait entre les lignes de la rivière Atlantique qui n'était pas exactement écrit? Quelle histoire restait-il à raconter?
Quelle histoire? C'était la fatalité des êtres. Et donc, c'est vraiment le thème nietzschéen de l'éternel retour et du fait que l'on ne... Et c'est quelque chose que nous portons en nous, mais malheureusement, nous n'en sommes pas maîtres, qui est les structures de l'inconscient qui nous font toujours refaire les mêmes choses, tomber dans les mêmes... cette loi de l'illimité, quoi qu'on fasse, on refait toujours les mêmes choses.
Vous parlez de la répétition, une manière de, oui. du déterminisme d'une certaine manière, voilà. Et en fait vous le figurez en repassant par le monde antique avec des sortes de dieux, on peut les appeler comme ça, Ariel Dombal.
Voilà, c'est-à-dire que là il y a des figures qui sont un peu le surmoi, hein, c'est un film justement assez psycho. Hein, psycho. Et il y a le surmoi, c'est là le grand manipulateur intelligent. L'intelligence qui est incarnée par le personnage de Michel Faux, qui est un grand manipulateur qui croit mieux que les sujets qu'il choisit, que les objets qu'il choisit, qui sont les êtres humains, comment reconstituer l'unité première de l'homme et de la femme, ce manque que l'homme ressent et que la femme ressent. D'après Aristophane, l'âge d'or où on était un hermaphrodite, c'est-à-dire une créature extraordinairement heureuse et complète, mais qui a péché par l'urbicité et ils ont été coupés en deux et nous errons tous sur cette planète à la recherche de notre double. C'est ça le fondement de l'histoire. Et Michel Faux croit mieux que les sites de rencontres Mythic, Grindr, Tinder, puisque maintenant les gens se rencontrent beaucoup comme ça. Lui, il croit être supérieur à ces algorithmes qui disent telle personne est faite pour telle autre, parce qu'elle aime aller à la pêche, les vacances, faire du ski. Voilà, bon. Eh bien, lui, il pense que ça se joue en crochetant les âmes, en allant voir ce que les gens cachent, ce qu'ils ont dans l'inconscient. Et ce redoutable surmoi, ce redoutable Michel Faux, croit tellement à sa théorie, est un savant omniprésent, dogmatique, chef de secte. Et quand ses exemples, parce qu'il croit vraiment au fondement de ce qu'il fait, quand les exemples ne marchent pas, ils sont supprimés.
Il faut chaque fois réexpliquer les choses. Ce que l'on peut réaliser avec certaines entités, on peut le faire avec des êtres humains, les transmuter. Dans la vie, ce que l'on appelle le manque, c'est ce que l'on désire. Ce qui te manque, c'est l'autre, ce que l'autre possède et qui vous manque à vous. Vous êtes à la fois l'arc et la flèche. Chez les Égyptiens et chez les Grecs anciens, on appelait ça réunir l'androgyne, le feu nectique, le dieu anime, la déesse Léontocéphale, pour créer l'univers. L'androgyne, un être dans lequel l'homme et la femme s'unissent dans le même corps.
Vous en parliez de ces créatures omniscientes qui savent mieux que les humains qu'ils pensent pouvoir manipuler, Ariel Dombal. Peut-être qu'il faut parler des comédiens que vous avez choisis pour les figurer à l'écran, parce qu'évidemment ça teinte notre regard.
Bien sûr. Alors bon, j'ai pris bon pour moi le plus grand acteur contemporain, qui est Michel Faux, qui est non seulement un acteur, mais qui est un metteur en scène suprême et qui a qui est aussi pour moi une figure de la modernité, parce que c'est un être queer, c'est-à-dire que il s'incarne en tant que femme, Michel, de manière extraordinaire. Et il arrive à jouer des cantatrices, des divas totalement hystérisées, avec une voix, une démarche, les gestes d'une magnifique. Et donc je le voulais, lui, comme créateur omniscient. Et puis au-dessus de lui, j'ai pris comme référence Dorus, enfin le dieu des dieux, le monothéisme, le fondement de aussi bien Zeus qui réunit tous les autres dieux et qui l'avènement du monothéisme. Horus, je l'ai fait jouer par Jean-Pierre Léo, qui pour moi incarne toujours une espèce de petit roi du cinéma éternel Et il a été merveilleux, Jean-Pierre, parce qu'il a relu tout le livre des morts des Égyptiens pour son rôle, qui est extraordinairement difficile, parce qu'il est théâtral, il incarne une entité tellement puissante. Et il a été merveilleux.
D'autant qu'il faut quand même qu'il se dépatouille pour n'être pas complètement dans le grotesque. Je m'explique, Ariel Dombal, ça pourrait le friser. C'est-à-dire que ces deux entités-là, au-dessus des humains, décidant de leur destin, décidant de faire leur chimie amoureuse, vous pourriez très bien être trop proche du grotesque, qu'ils n'atteignent pas.
Non.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que je les théâtralise d'une manière dans l'ambiguïté. Mais en même temps, on sait bien qu'ils sont, que je n'essaye pas de faire des faux dieux. J'essaye de faire des représentations de dieux, comme le fait toute la peinture du Quattrocento autour de l'Annonciation, comme le font 21 siècles de représentations autour du religieux, autour du métaphysique. Il y a des représentations, parfois elles sont interdites, et là elles ne le sont pas, elles sont vraiment incarnées dans un rituel que je voulais en même temps appealing, quelque chose qui soit amusant à regarder et crédible.
Autre twist de l'écriture, c'est que on n'est plus du tout sur le mont Olympe, mais on est quasiment à l'extrême opposé de ce que vous pouviez imaginer, à savoir sous l'eau. Qu'est-ce qui fait que ce sous-marin-là était l'endroit le plus important, le plus idéal pour figurer le déterminisme ?
Eh bien là aussi, c'est parti de la rivière Atlantique. La rivière Atlantique, c'est les
Donc
courants,
le disque avec Nicolas Kerr.
Le disque, l'album avec Nicolas Kerr, l'album rock, gothique, noir, ténébreux, qui est les rivières, les courants qui m'ont toujours passionné, les courants à l'intérieur des océans, comme des rivières qui se frayent un passage au milieu de l'eau, l'eau dans l'eau, et le mythe de l'Atlantide, de tout ce qui est caché encore, de toutes ces cathédrales englouties. Et donc ce sous-marin, c'est aussi la forme de la puissance, puisque c'est une force cachée, c'est invisible, ça ne fait pas de bruit. Et voilà, il rôde, c'est une arme puissante, quoi. C'est là où on peut être un peu comme dans les James Bond, dans les endroits sur la Terre les plus puissants et les plus reclus, les plus invisibles.
Ça vous donne en plus la possibilité plastiquement à l'écran de faire des plans assez incroyables. J'imagine que vous avez tourné avec un vrai sous-marin, parce qu'on voit cette machine-là qui fend l'horizon, qui fend la mer, c'est assez étonnant à voir.
Ça a été très difficile, évidemment, avec ce tout petit budget, puisque mon film, qui est quand même très très spectaculaire, plein d'effets spéciaux, a un tout petit budget de court-métrage. Mais je suis arrivée avec beaucoup d'effets spéciaux et beaucoup de travail en post-production à faire en sorte. Mais on a tout de même tourné dans un sous-marin nucléaire, et c'était la première fois où on pouvait, parce que c'est secret défense, les sous-marins nucléaires. Il y avait même des torpilles dans notre sous-marin, et donc c'était formidable de pouvoir le faire.
Moi, j'ai vécu longuement, je vais avoir 90 ans dans des années, je suis un vieillard, mais dans ma longue vie, j'ai vécu trois ou quatre fois, c'était la guerre de Vietnam, c'était terrible. Et les couples humains, hommes-femmes, est en crise, c'est une espèce de guerre. Et j'avais l'idéal qu'un jour je trouverais la femme de ma vie qui me correspondait, qui me complétait, comme les jeans et les jaunes, comme les blancs et les noirs, comme les rouges et les jaunes. Et Pascal est à Paris. Et là, par première fois dans ma vie, j'ai fait un couple où on collabore. On n'a aucune compétition. Il n'y a pas de problème d'ego. On a la joie de faire une œuvre ensemble comme si on faisait un enfant. On crée un autre personnage que c'est notre fille-fils, que c'est l'androgyne, c'est l'état, la union du blanc et du noir, c'est des positifs négatifs, c'est la unité de la dualité. Ça existe. Nous on est arrivé à ça, une collaboration entre l'homme et la femme paradisiaque.
Temps qui court, Ariel Dombal avec Marie Richeux.
L'orchestration, on écoute un extrait de cette rivière atlantique, Ariel Dombal, avec un morceau qui s'appelle The Tempest. Et on entend vos voix, celle de Nicolas Coeur et la vôtre, presque se répondre. Parfois, vous chantez complètement à l'unisson. Juste avant, c'était une archive de Jodorowsky qui parle d'une rencontre comme ça à la toute fin de sa vie. Je vais avoir 90 ans, il les a maintenant. Et j'ai enfin trouvé à recréer l'androgyne. Et c'est assez intéressant que cet homme soit un grand créateur, que la femme qu'il a rencontrée soit peintre et que dans votre film, les deux êtres qui sont élus pour se retrouver, pour éventuellement refaire cette unité originelle, soient des artistes.
Oui. Ça c'est. Il se trouve que dans le film, c'est comme ça. Mais évidemment, le propos du film est dans Aristophane. C'est quelque chose qui concerne tous les êtres humains, pas seulement les artistes. C'est cette projection vers l'autre, ces correspondances secrètes, cette idée aussi. On dit tomber amoureux, c'est quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a cette recréation de l'être. On a l'impression de s'accomplir, et ça, c'est à tous les âges, sous toutes les latitudes, et pour le genre humain en général.
Bien entendu, mais en même temps, ce que propose Christelle Alien-Palas, c'est aussi une réflexion sur l'art et sur la création. C'est-à-dire que, bien sûr, ils pourraient ne pas être cinéastes et musiciens, mais en même temps, vous décidez qu'ils le sont, Ariel Dombal. Et dans la note d'intention, Nicolas Coeur parle de l'art et de la folie, comme si c'était aussi votre objet, à vous qui avez écrit ce film, de parler de ce que c'est que de créer.
Oui, absolument. De la difficulté du somnambulisme dans lequel on est, dans le fait qu'il faut rester avec cette constance, cette fidélité à soi-même. Il faut trouver quelque chose qui ne vous trahit pas. Il faut rester extraordinairement lié aux forces les plus fondamentales, les plus vraies de soi, et créer quelque chose de singulier, sans se dire « Oh, mais ça, les gens vont pas aimer, mais il ne faut surtout pas faire ça », parce que là, on tombe totalement à côté si on fait ça. Il faut rester fidèle au projet, à l'image. Ce que disait David Lynch, qui est tellement juste, il ne faut pas se trahir. In the process.
Et parfois ça passe par une rencontre, parfois ça passe par cette rencontre, amoureuse ou pas, mais qui vous donne de vos propres nouvelles et vous rappelle à quoi ? Vous rappelle à votre propre exigence, à votre propre chemin ?
Exactement, exactement. C'est probablement ça. C'est tout à coup, dans l'orchestre, il y a des notes fondamentales, il y a des notes qui doivent être là. Et comme en musique, il y a de la désharmonie qui crée l'harmonie, le contrepoint musical. Eh bien, Nicolas Kerr et moi, c'est ce contrepoint qui crée l'harmonie. Et c'est, eh bien, bon, c'est presque, comment est-ce qu'on, pythagoricien. Mais lui, Nicolas, il vient de Matsup. Avant d'être rocker et d'habiter Saint-Denis avec des putes, il était promis à... Il faisait Matsup.
Et ça te renseigne sur quoi ?
Eh bien, je crois sur le fait que lui, il a un très très grand sens de la mesure et de la géométrie euclidienne à l'intérieur de la musique.
Et pas vous ?
Moi, peut-être aussi, mais par autre chose. Moi, j'arrive par le conservatoire, l'étude du solfège, du bel canto. Voilà, c'est peut-être moins abstrait. Lui, c'est plus mathématique. Moi, c'est plus dans le... ailleurs.
Et il faut comprendre que cette rencontre-là, cette rencontre musicale, puisque vous vous êtes tournée vers Nicolas Kerr en lui disant « Écrivez-moi un album de romantisme noir, de rock noir », c'est quelque chose qui vous a remise sur un rail de création, Ariel Dombasle, qui vous a encouragé à quelque chose.
Oh, c'est pas exactement comme ça. Et puis, ce n'était pas dogmatique comme ça, « Écrivez-moi », non, ça, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est plutôt son producteur pan-européen qui a dit « Ah, mais vous devriez... pourquoi est-ce que vous faites pas des voix ensemble, non, c'est pas arrivé comme ça, écrivez-moi. Non, ça s'est fait de manière plus...
C'est le journaliste qui le raconte
oui,
de mauvaise
ça,
manière.
Oui, c'est ça, voilà. Mais c'est un désaccord artistique très profond et qui doivent être, voilà. Et vous savez, dans nos carrières d'acteurs, surtout la mienne, qui est vraiment un grand écart constant, et je le revendique, c'est ce que j'ai choisi, je vais dans toutes sortes de médiums, je suis obligée de jouer ce qu'on me demande, d'être celle qu'on me demande, et je le fais avec grande joie. De temps en temps, il faut prendre les rênes de sa propre création et faire quelque chose qui vous est absolument nécessaire, une nécessité transcendante et avec toute la violence que ça comporte, parce que c'est très difficile à faire, et à réaliser quelque chose qui soit intimement indispensable.
Le réel, pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où ? C'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Il est absolument fabuleux que personne n'ait articulé ça avant Freud, alors que c'est la vie même des êtres parlants. Qu'on se perde dans le rapport sexuel, c'est évident, c'est massif, c'est là depuis toujours. Et après tout, jusqu'à un certain point, on pourrait dire, ça ne fait que continuer. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où, dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire, là, bafouiller. Mais bafouiller en mots. Parce qu'il est clair, maintenant, que pendant la plus grande partie de l'histoire, l'être parlant s'est cru en droit de rêver. Il n'a pas su qu'il se laissait porter par le rêve dans son droit fil. Ennuyeux et qu'il en reste des choses totalement fallacieuse, mais qui garde apparence, et la psychologie au premier plan. Que chacun fasse référence à sa vie parmi ceux qui m'écoutent. Est-ce qu'il a ou non le sentiment qu'il y a quelque chose qui se répète dans sa vie, toujours la même, et que c'est ça qui est le plus lui.
C'est une archive de Jacques Lacan en 1973, Ariel Dombal. Tout à l'heure, vous avez dit « Le film que j'ai réalisé est un film psycho et moi, je n'ai cessé de me demander, en le regardant, ce qu'il empruntait sciemment à la psychanalyse. »
Alors, j'ai toujours été anti-psychanalyse en ce qui me concerne. Mais j'ai une fascination pour la psychanalyse et j'écoutais là ce Jacques Lacan qui est en effet difficile à lire et difficile et qui est tellement génial, qui est d'une... C'est tellement fulgurant, c'est tellement juste ce qu'il dit. Et donc, oui, on peut imaginer que le personnage joué par Michel Faux est un grand psychanalyste, absolument.
En tout cas, que ça a à voir avec l'inconscient. Si on ne parle pas de psychanalyse, parlons d'inconscient dans ce cas-là,
voilà,
Dombal.
Voilà, de l'inconscient. Et en effet, les forces de l'inconscient qui sont les plus grandes. Et quand on observe nos vies, comme on est déterminé par cela, c'est comme tous ces petits démons, tous ces êtres multiples qu'on porte en nous, qui sont là et qui tout à coup se réveillent et nous bouleversent et nous saccagent, et qui sont toujours de l'ordre de la psychanalyse, c'est-à-dire ils sont là, tapis dans l'ombre. Et est-ce que, alors, grand problème, est-ce que les cerner, les dire, les trouver, les parler, est-ce que ça nous aide? Moi, j'ai toujours pensé, parce que je suis actrice et metteur en scène, que ce qui me libère, ce qui me soigne, ce qui fait que je peux mettre un pied devant l'autre et avancer dans la vie, c'est parce que j'ai la possibilité d'exprimer artistiquement toutes mes douleurs, mes craintes, mes contradictions, le mal de vivre. Je crois que les gens qui n'ont pas cette possibilité peuvent avoir recours à la psychanalyse et que quelquefois c'est réussi.
Quand on entend Jacques Lacan dire « Je m'adresse à celles et ceux qui nous écoutent et leur demande ce qui se répète dans leur vie », c'est un film, votre film, qui interroge ça, qui interroge les répétitions mortifères, la manière dont, en effet, vous le disiez à l'instant, certaines des blessures, de nos blessures, prédisent et président à nos gestes et à nos décisions, parfois même à nos désirs, dit votre film. Dans le cas des deux personnages, est-ce que c'est ce qui les empêche de se réunir selon la volonté des dieux ? Ariel Dombal.
Voilà, là, dans ce film, il est question de cela, exactement. Exactement. Toute l'attirance du monde est là, et si on observe un tout petit peu les êtres autour de soi, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont extraordinairement dans l'attraction l'un pour l'autre, et ils se méfient, et ils ont peur, et voilà.
Voire ils cassent l'objet de leur désir.
Ils ne cassent pas, c'est-à-dire qu'ils essayent de cerner ce qui ne va pas trop les meurtrir et les assassiner. Parce que l'on sait bien que le rapport sexuel, sensuel, est quelque chose de tellement bouleversant, de tellement fort, de tellement... C'est une tornade, qu'on n'en sort jamais indemne. Je lisais ça il y a quelques jours dans Tech, je disais... La sexualité est une arme dont le venin est immortel. Et donc, les êtres se méfient toujours de cette rencontre sexuelle, comme dit Lacan. Et pourquoi ? Parce que ça déchaîne tout l'être au plus profond. Et ce qui empêche parfois les êtres d'accomplir cette fusion, eh bien, c'est souvent justement des blessures qui sont là et qui vous font peur. On a peur de l'éternelle répétition. Il y a des gens qui disent, il y a des femmes qui disent « Ah, mais je tombe toujours sur des types qui me massacrent. » Il y a des hommes qui disent « Je tombe toujours sur des femmes fatales, effrayantes, qui m'annihilent. » D'autres qui disent « Ah non, je n'irai pas avec cette femme parce que c'est l'ennui, le confort, la répétition. » Voilà, il faut que les deux inconscients, toute la fantasmagorie de chacun des protagonistes s'emboîte parfaitement. Et voilà. Et c'est une chose rare est génial, c'est ce qui s'appelle l'amour.
Il y a une grande part laissée à la fantasmagorie ou au rêve pour rester du côté de l'inconscient. Dans ce film-là, il y a plein de moments où on n'est plus exactement sûr d'ailleurs de ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde quelque chose qui est en train d'advenir? Est-ce qu'on regarde un rêve de Nicolas Atlante, le musicien? Est-ce qu'on regarde une peur mise en image, un fantasme? Vous jouez aussi beaucoup, Ariel Dombasle, sur un registre qui laisse le réel à un endroit où on ne sait plus exactement où il est.
Voilà, exactement. Mais je pense que c'est comme dans la vie. Dans la vie, on n'est pas 24 heures par jour en train de vivre la même chose. On est dans différents genres, différents états de conscience, de perception. Quelquefois, on est complètement mécanisé. On ne sait même pas ce qu'on fait, on fonce. D'autres fois, on est choqué. D'autres fois, on commence à pleurer. D'autres fois, on est mélancolique. Tout ça dans une seule journée. Ou quelquefois, on se dit, tiens, aujourd'hui, je vis comme un somnambule, j'avance comme un robot. Il y a des jours qui sont comme ça aussi, où on est tout dans l'efficacité, dans les choses qu'il faut faire, etc. Et donc, dans le film, il y a cette espèce de suspense au sens propre. C'est un film qui est un thriller de suspense, il y a des crimes, et quelque chose qui fait peur, on ne sait pas quoi, qui est là, suspendu, et qui vous tient en haleine. Et on ne sait jamais très bien dans quelle strate de la conscience on est. Mais le cinéma, ça marche comme ça. Ça touche des niveaux qui sont peu cernables.
Je pense des suspens, de faire comme ça, de faire une sorte de défi avec les spectateurs qui, quelquefois, ils tombent dans tes peurs plus profondes, alors tes terreurs plus profondes. Il faut entrer dans ça et comme des cauchemars, non? Alors il faut raconter ça avec une précision mathématique, il faut le faire. Comme tu l'as pensé, mais vraiment comme tu l'as pensé, la scène de peur. Si il y a quelques changements, peut-être qu'il ne sortira pas le même effet. Et il faut, quand tu l'as pensé ou tu l'as rêvé, il faut la faire exactement avec les rythmes, les mouvements exacts. Et c'est ça le plus difficile, de se rappeler ça exactement. What will they say when the nights turn to gray? We will keep on fighting till the end.
Dombasle, il faudrait avoir l'image pour vous voir chanter cette chanson, mais avec beaucoup de concentration. Vous ne tournez plus pour cet album-là, La Rivière Atlantique ?
Non, là nous allons encore donner un concert au Silencio mercredi prochain pour la sortie du film Alien Crystal Palace. Et voilà, mais on a beaucoup donné de concerts, oui. Et c'est tellement beau, c'est des moments absolument magiques que les concerts.
Juste avant, on entendait la voix de Dario Argento et qui nous faisait presque nous rapporter à ce que vous disiez tout à l'heure du rapport de Nicolas Kerr et des mathématiques, puisqu'il disait il faut être précis comme un mathématicien, il faut s'approcher le plus possible de la scène qui fait peur et essayer de la réaliser. On en revient toujours à la même chose avec le plus de fidélité pour créer le suspense. Et vous dites, Ariel Dombal, ce film c'est un thriller, c'est un endroit où il y a du crime, où il y a un suspense. Est-ce que il a fallu vous aussi que vous alliez proche de scènes qui ouvertement vous font peur?
Oui, oui, absolument. Il y a des scènes terrifiantes dans mon film. Il y a beaucoup d'étranglements de femmes, déjà. Moi, j'ai toujours eu peur d'être étranglée. Parce que c'est tellement facile de tuer quelqu'un en l'étranglant. Bon, c'est un point de grande vulnérabilité. Et les femmes sont moins fortes que les hommes, donc c'est facile d'étrangler. Et puis, il y a des scènes absolument de ritualité, de sacrifice, de femmes aussi. Il y a toute une mise en scène très violente, comme ça, une sorte de bacchanal. Voilà, donc oui, les scènes sont là, les scènes qui font frémir.
Mais elles vous font frémir parce que vous les trouvez effrayantes ou parce qu'elles sont fantasmagoriques? Parce qu'à vous écouter, les deux sont possibles.
Oui, les deux sont toujours possibles, bien sûr. Et puis il y a cette attirance de la peur qui est beaucoup. Moi, je me rappelle que quand j'étais ado, on me dit ce film est assez adolescent. Quand j'étais ado, j'adorais les films de peur. La peur, c'est très proche de l'érotisme. Et donc, voilà, ce film, c'est la facture qui est comme ça. Et Asia Argento, qui donc me fait la grâce d'être aussi dans le film, et qui fait des films elle aussi, eh bien, elle a beaucoup aussi réfléchi sur ce que cette transgression, elle peut-être de manière plus punk et plus transgressive.
Et qu'est-ce qu'elle en dit?
Entre la musique. Oh, mais elle a été depuis l'âge de 10 ans dans les films de son père, donc c'est quelque chose qui est probablement extraordinairement enrichissant et traumatisant au plus haut point, donc c'est très complexe.
Et qu'est-ce que vous en dites, vous, de la nécessité de la transgression, Ariel Dombal?
Oh, je crois que malheureusement, on y est tous voués, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous attire, et quelque chose qui est intrinsèquement lié au plaisir. Donc, s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de plaisir. Donc, c'est quelque chose auquel nous sommes voués.
D'ailleurs, dans ce film-là, qu'est-ce qui est le plus transgressif? Il y a des scènes érotiques, il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de meurtre, des scènes d'étranglement, comme on le disait. Mais sont-ce là les endroits les plus transgressifs de votre film?
Ah, je ne sais pas. Ça, c'est aux gens qui le reçoivent de dire ce qu'il y a de plus transgressif.
Vous avez eu l'impression de passer certaines de vos propres frontières?
Oui, probablement, oui, parce que le film est plein d'audace et que je n'ai pas transigé sur le fait. On m'a dit, mais non, ne fais pas ça. Par exemple, à un moment donné, on voit le sexe de Nicolas. Et donc, les gens m'ont dit, mais tu ne peux pas laisser ça au montage, etc. Mais voyons, mais ça
Pourquoi
va être interdit partout, parce que c'est quelque chose de choquant en soi, surtout dans le type de film que je fais. Si c'était un film ouvertement érotique, ça ne le serait probablement pas. Et d'ailleurs, au visa de censure, il y a eu toute une polémique autour de mon film. Je ne sais pas pourquoi autour de celui-là, parce qu'il est quand même bon. Voilà, est-ce qu'il faut l'interdire au moins de 16 ans ou voilà, parce qu'il est choquant, mon film.
Mais est-ce qu'il est vraiment choquant? Je repose ma question. Est-ce qu'il est vraiment choquant parce qu'on voit des femmes faire l'amour, par exemple, ou parce qu'on voit éventuellement le sexe de Nicolas Kerr?
Ben, je ne sais pas, mais pour la censure, je crois qu'ils étaient très troublés. C'est plutôt la manière dont tout ça est agencé, parce que c'est un film où il y a un mélange des genres et ça trouble les gens. C'est ça qui est aussi très transgressif. C'est finalement la liberté.
On sent que vous êtes aussi allé chercher des images précises. On parlait d'images fantasmagoriques, d'images de rêve, de représentation de certaines scènes, Ariel Dombal, mais aussi des décors. Oui. À plusieurs moments, je me suis dit que c'était important pour vous de filmer là où vous étiez. Alors peut-être pratique, hein, vous disiez qu'on vous a prêté des choses et que c'était pour des questions budgétaires intéressant d'être à un endroit ou à un autre, mais qu'il y avait quand même des les images qui vous importaient, la ville de Paris, la ville de Venise, la ville de Tanger.
Oui, et puis les scènes, par exemple le bal à Venise, c'était extraordinairement difficile à faire, tout ça. Tourner à Venise est très très difficile. D'abord, j'ai eu beaucoup de mal à jeter un cadavre de femme dans les canaux, ça a été très très compliqué. Je me suis fait arrêter par la police à tous les coins de rue, aussi bien à Tanger qu'en Égypte et qu'à Paris et qu'à Venise. Donc oui, parce que je suis hors des sentiers battus et que c'est difficile, voilà, que je n'avais pas une équipe de 1000 personnes en train de mettre des voitures tampons pour rendre les rues privées, etc. C'est un film fait à l'arrache. Et donc, voilà, avec extraordinairement d'accidents qui viennent se perturber les choses.
Mais quel rôle jouent ces villes-là, ces décors-là, dans votre film,
Marie? Ah, très grand, très grand.
Parce qu'elles convoquent aussi des imaginaires, elles convoquent aussi toute une forme de représentation qui viennent à leur suite.
Absolument. Alors bon, bien entendu, Venise, c'est l'eau. Parce que tout de même...
Il y a de l'eau partout dans ce film.
Il y a de l'eau partout. Et l'eau, c'est l'alcool. Et le film aurait pu appeler ça « Alcool » d'Apollinaire. Il y a de l'eau partout, c'est une matière tellement mystérieuse.
Ne vous inquiétez pas, personne n'en saura rien. Il ne faut pas que nous soyons aussi malheureux. Maintenant, nous partons en Égypte.
Je ne suis pas malheureux. Je n'existe pas.
Ce film est un cauchemar. Je ne sais pas où nous allons.
Nous ne sommes nulle part.
Mais vous voyez... C'est étrange. J'ai l'impression que ce film qu'on me demande de faire est cousu d'éléments qui appartiennent à ma propre vie. Mon père aussi est tombé amoureux d'une princesse et je l'entendais marcher au-dessus de ma chambre. Et c'était une amie de ma mère. Et je ne comprenais pas pourquoi mon père...
You can never go home again.
Mon père allait la rejoindre la nuit. Je l'entendais. Et puis, ma mère est tombée malade et un jour, elle s'est embarquée sur un paquebot transatlantique. Et puis, elle a disparu. Je ne l'ai plus jamais revue.
C'est à lui de briser le cercle morbide entre la mère et la fille. La mère, dans son cercueil de cristal, qui erre dans les limbes, éternellement entre les vivants et les morts. Il faut que ce soit lui qui perce le mystère. Cela va les lier à tout jamais. Elle erre éternellement dans les limbes, les courants de la rivière Atlantique. Briser son cercueil de cristal. Délivrez-la! Délivrez-la!
C'est un dernier extrait, Ariel Dombasle, de votre film Alien Crystal Palace. Et on parlait en tout début d'entretien de la mise en abîme. Vous êtes Ariel Dombasle, vous filmez une femme qui filme elle-même. Et à l'intérieur de ce film, elle dit « Il y a des choses dans le film impossible qu'on me demande de faire qui sont tissées des propres histoires de ma propre vie. » Et évidemment, c'est difficile de ne pas voir dans la figure, tout à l'heure vous parliez d'architecture de verre, dans la figure de ce cercueil de cristal, de femme et de mère enfermée, des éléments de votre propre histoire. S'il est question ici de délivrance, est-ce qu'il y a dans les films un moyen de se délivrer un peu?
Je crois que nous tout ce que l'on fait, tout ce que l'on écrit, tout ce que l'on peint, tout ce que l'on photographie, tout ce que l'on entreprend, c'est pour se délivrer.
Et c'est délivrant, par exemple, de faire ces images de femmes dans un cercueil, de femmes qui hantent et à la fois une présence extrêmement, parfois bienveillante?
Probablement, je ne sais pas répondre. Ça, c'était nécessaire de le faire.
Et en le voyant à l'écran, ça fait quel effet?
Un effet extraordinairement bouleversant.
Est-ce qu'il y avait des lectures qui étaient importantes pendant l'écriture de ce film ou pendant le tournage, Ariel Dombasle?
Des lectures, non, probablement pas. Moi, je retourne toujours vers plutôt, pour l'écriture cinématographique même, les propos de Jean Cocteau sur le cinématographe, sur cette encre de lumière, qu'il faut comment dire les choses, par quels moyens les dire. Et voilà, et plutôt des films et plutôt beaucoup d'écoute de musique. Et voilà, et de toute façon, bon, des poèmes, des choses qu'on relit éternellement et qui vous donnent des forces d'avancer.
De même, le dialogue, parce qu'on a assez peu finalement parlé du travail concret, c'est un film que vous signez, c'est un film d'Ariel Dombasle, mais vous avez travaillé en collaboration avec plusieurs personnes. C'était un dialogue qui s'établissait comment ?
Alors, le film a d'abord été écrit par Florian Bernas, qui est un médecin urgentiste, qui est une sorte de saint laïque qui a écrit un abécédaire du rock'n'roll et aussi un traité sur Baudelaire, et qui tout à coup s'est voué, s'est dit je vais aller au plus près de la misère du monde, et qui est devenu urgentiste dans les hôpitaux de Paris. C'est un ami de Nicolas, et c'est eux deux qui ont écrit le film en première mouture. Et puis, moi, un petit peu. Et puis après, à un moment donné du parcours, j'ai fait appel à un ami que j'adore, qui est Jacques Fieschi, qui lui est un script doctor. Et qui lui a travaillé avec Piala, c'est quelqu'un qui donne des cours d'architecture, de scénario. Et donc, voilà, il a aidé certains points, car nos deux histoires, là aussi, l'histoire que vivait et qu'avait écrit Nicolas, entrait en contradiction sur certains points avec la mienne. Et notamment, pour Nicolas, Asia Argento et moi, nous sommes la même femme. Et sur une histoire de est-ce qu'il peut reconnaître la même femme, enfin voilà, une chose un peu compliquée à traduire cinématographiquement, et Jacques Fieschi m'a donné la clé. Voilà.
On gardera le mystère pour celles et ceux qui veulent aller voir le film Alien Crystal Palace. Ariel Dombasle sera en salle la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Oh, c'était bien. C'était superbe.
Merci à vous.
Ah oui.
Dans la lueur du soir, tu auras vu la fin d'un monde. Dans la lueur du soir, tu auras vu la fin d'un monde. Dans le fond d'une armoire, des photos comme des coups de sonde. Dans le fond d'une armoire, des photos comme des coups de sonde.
Des villages d'eau claire et la beauté des nuits profondes.
Au son ce soir, Mathieu Tourin, à la réalisation, Lise-Marie Barré. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr. Plusieurs personnes la pensent et la préparent. Elles s'appellent Anna Baron, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lou Covovillier et Marie Rivieux. Et moi, je suis Ocha, hors Contourès, et j'étais en stage cette semaine, j'ai eu la fièvre, je n'avais pas vraiment de bureau, c'était cool. J'ai découvert les dessous de la radio et ses différents métiers. Je reviendrai peut-être prendre de vos nouvelles. Bonne soirée à toutes et à tous sur France Culture. Très bon week-end. Dans un instant, le journal.
Tu pourras dire j'aurais connu la fin d'un monde. Tu pourras dire plus tard, j'aurais connu la fin d'un monde. En attendant plus tard, occupe-toi des prochaines secondes. En attendant plus tard, occupe-toi des prochaines secondes.